Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de notre programme. Deuxième journée du 34e voyage apostolique du pape François en Slovaquie. On en parle tout à l'heure avant de nous rendre au Tchad, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. L'actualité sociopolitique quant à elle nous conduira entre autres au Nigeria, en Algérie et au Mali. Bienvenue encore une fois à toutes et à tous et bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Donatien Niembo.
Nous continuons à suivre le pape dans son 34e voyage apostolique. Le Saint-Père avait quitté la Hongrie où il se rendait pour la première fois de son pontificat. À 14h juste, heure locale, après la messe Tatio Orbis qui a conclu le 52e congrès eucharistique international, en présence de plus de 500 000 fidèles, le souverain pontife avait rejoint l'aéroport international de Budapest pour la cérémonie d'au revoir. Il a été accueilli par le vice-premier ministre Slotos Menchen avant de monter à bord de l'Airbus A320. L'appareil a ensuite parcouru les 209 kilomètres séparant Budapest et Bratislava, capitale de la Slovaquie, deuxième étape du 34e voyage apostolique de François. À son arrivée à l'aéroport de Bratislava, le Saint-Père a été accueilli par le nonce apostolique Monseigneur Giacomo Guido Otonello et l'ambassadeur de la République slovaque près le Saint-Siège Marek Lisanski. Puis s'est déroulée la cérémonie officielle de bienvenue en présence de la présidente de la République Zuzana Kaputova. Une foule joyeuse d'habitants et fidèles était également présente pour acclamer le successeur de Pierre et lui manifester son affection. Puis le pape François est parti en voiture pour l'annonciature apostolique où se tiendra à 16h30 son premier rendez-vous sur le sol slovaque, la rencontre avec le Conseil œcuménique des Églises. Le pape François s'est dit ravi que sa première rencontre en terre slovaque ait lieu en compagnie du Conseil œcuménique des Églises du pays. Selon lui, signe que la foi chrétienne est germe d'unité et levain de fraternité. Dans son discours, le pape François a interpellé le chrétien du vieux continent, les invitant à renouer avec l'ardeur de l'annonce et la prophétie du témoignage.
Comment pouvons-nous souhaiter une Europe qui retrouve ses racines chrétiennes si nous sommes nous-mêmes les premiers déracinés de la pleine communion? Comment pouvons-nous rêver d'une Europe libre d'idéologie si nous n'avons pas la liberté de faire passer la liberté de Jésus avant les nécessités des différents groupes de croyants? Il est difficile d'exiger une Europe davantage fécondée par l'Évangile sans se préoccuper du fait que nous sommes encore divisés entre nous sur le continent et sans prendre soin les uns des autres.
Pape François lors de la rencontre avec le Conseil œcuménique des Églises slovaques. Après cette rencontre, il était 17h30, une journée chargée était sur le point de s'achever et c'est avec le sourire que le pape François a accueilli en privé les 53 jésuites venus de toute la Slovaquie à l'annonciature apostolique. Ce rendez-vous avec les jésuites de l'église locale est désormais une tradition de tout voyage apostolique de François. Le Saint-Père a fait preuve d'une grande attention, comme en témoignent les personnes présentes, et cela malgré le tour de force de ce premier jour du voyage, qui en 12 heures l'a conduit à Budapest puis à Bratislava. La journée de lundi s'annonce riche en rencontres. Elle a commencé dans les jardins du palais présidentiel de Bratislava, où a eu lieu le matin la rencontre entre François et les autorités, la société civile et le corps diplomatique slovaque. Un rendez-vous qui a permis au souverain pontife de rappeler l'héritage de cette terre du milieu et d'inviter à bâtir un avenir de paix et de solidarité. Compte rendu de Delphine Allaire.
La liberté implique de sortir de l'autoréférentialité, a d'emblée prévenu le pape, affirmant que le centre de l'Église n'est pas l'Église et appelant à sortir de l'inquiétude excessive pour nous-mêmes et nos structures. La liberté n'est pas une conquête automatique qui demeure une fois pour toutes. Selon le Saint-Père, elle est toujours un chemin, parfois pénible, à renouveler continuellement. François qui insiste sur le risque du choix et invite à ne pas passer sa vie en faisant ce que d'autres, la masse, l'opinion publique, décident pour nous. Le pape critique cette attitude aussi dans l'Église. Mieux vaudrait avoir toutes les choses prédéfinies, des lois à observer, la sécurité, l'uniformité, plutôt que d'être des chrétiens responsables et adultes qui pensent, interrogent leur conscience, dénoncent-ils. Dans la vie spirituelle et ecclésiale, au lieu de cette tentation d'une fausse paix qui nous laisse tranquilles, il nous faut adhérer donc au feu de l'Évangile qui inquiète, qui transforme, alerte le pape, exhortant à laisser place à l'aventure de la liberté, même dans la vie spirituelle, sans quoi celle-ci risque de devenir un lieu rigide et fermé. N'ayez pas peur de former les personnes à une relation mûre et libre avec Dieu. L'Église du Christ ne veut pas dominer les consciences ni occuper les espaces. Elle veut être une fontaine d'espérance, a-t-il ajouté, souhaitant ainsi que l'Église et l'Évangile soient toujours libérateurs, jamais écrasants. Autre conseil avancé par le pape pour l'Église slovaque, la créativité dans les pas des saints Cyrille et Méthode, eux qui ont inventé un nouvel alphabet pour traduire la Bible, eux apôtres de l'inculturation, de la foi, inventeurs de nouveaux langages. N'a-t-on pas encore besoin de cela aujourd'hui? N'est-ce pas la tâche la plus urgente en Europe? Interpelle François, invitant à trouver de nouveaux alphabets pour dire la foi. Cyrille et Méthode sont aussi deux frères persécutés, accusés d'hérésie, car ils avaient osé traduire la langue de la foi. Voilà l'idéologie qui naît de la tentation d'uniformiser, dénonce le pape, affirmant au contraire que l'évangélisation est un processus d'inculturation, une semence féconde de nouveautés.
Ajoutons que le Saint-Père a également rencontré les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux ainsi que les catéchistes slovaques. Il a également rencontré la communauté hébraïque avant de recevoir la visite du président du Parlement puis du premier ministre slovaque. Le Saint-Père a nommé lundi le Père Corrado Maggioni, président du comité pontifical pour les congrès eucharistiques internationaux. Il était jusqu'à présent sous-secrétaire de la Congrégation pour le culte divin. Le Saint-Père a également nommé Monseigneur Leopoldo Girelli, nonce apostolique au Népal. Le petit séminaire Saint-Paul de Guidère dans l'archidiocèse de Garoua a célébré l'excellence scolaire. L'événement s'était déroulé dimanche 12 septembre 2021 en la chapelle du petit séminaire en présence de l'archevêque de Garoua, Mgr Faustin Ambassanjodo, et des autorités administratives de la ville de Guidère ainsi que du Mayo Luti à l'extrême nord du Cameroun.
Le petit séminaire Saint-Paul de Guidère a eu un taux de réussite de 100% aux examens officiels de l'année académique 2020-2021. Depuis sa création en 1986 par le cardinal Christian Toumi, d'heureuse mémoire, cette pépinière de vocation sacerdotale s'est toujours positionnée comme pôle de référence en matière d'éducation dans toute la partie nord Cameroun. C'est pourquoi l'archevêque de Garoua, Mgr Faustin Ambassa, est allé sur les lieux pour encourager les élèves, les enseignants et les formateurs. L'abbé Alexandre Aman est le recteur du petit séminaire Saint-Paul de Guidère.
Ces résultats sont les fruits palpables d'un accompagnement strict. D'abord par l'archevêque de Garoua lui-même, qui est très attentif à la bonne marche de cette illustre institution. Ensuite, par monsieur le délégué départemental des enseignements secondaires du Mayo Luti, et enfin, par les formateurs du petit séminaire.
La devise du petit séminaire Saint-Paul de Guidère est « Charité, science et discipline ». Cette année, les séminaristes sont au nombre de 109. Ils ont promis de participer généreusement à leur formation humaine intégrale tout au long de l'année scolaire 2021-2022. Paul Valéry Mondogo, DDA, pour Radio Vatican.
La traditionnelle assemblée diocésaine de l'archidiocèse de N'Djamena s'est tenue du 8 au 10 septembre 2021 au centre Bethel de Bakara. Objectif, évaluer l'année passée et orienter l'année pastorale en cours. Des détails de notre correspondant local.
Trois jours durant, les délégués des paroisses, vicariats, mouvements et institutions religieux, religieuses et prêtres autour de l'ordinaire du lieu, Monseigneur Edmond Ditangar, ont débattu sur les questions liées à la Caritas, l'éducation catholique et les mesures financières du diocèse. Il ressort des échanges que bien des défis s'imposent aujourd'hui à l'église famille de Dieu qui est à N'Djamena. Monseigneur Edmond Ditangar rend tout d'abord grâce à Dieu pour cette assise avant d'insister sur un projet pastoral avec un plan de croissance.
C'est le Seigneur qui nous dira le mot de la fin et nous ne pouvons que simplement remercier pour tout ce qu'il nous a donné de vivre ici maintenant. Nous ne pouvons pas vivre dans une église où on traite les problèmes au cas par cas. Il faut avoir une vision sûre, et c'est ce que nous voulons faire avec un plan pastoral, nous tracer un chemin. Nous devons avoir un plan de croissance.
Le prélat n'a pas perdu de vue la participation de l'Église catholique au dialogue inclusif prochain.
Comment nous allons participer à ce forum au niveau national? Je vais vous donner un exemple très simple. Dans le dernier message de la conférence épiscopale, nous avons déjà tracé un peu notre vision de la période que nous sommes en train de traverser. Nous avons rajouté une nouveauté du dialogue inclusif et de réconciliation. Il faut qu'on aboutisse par la réconciliation.
Severin Dingatolum pour Radio Vatican.
Avec notre correspondant au Burkina Faso, revenons sur la rencontre des journalistes et communicateurs à Bobo-Dioulasso.
La cathédrale de Bobo-Dioulasso a abrité le dernier acte majeur de la rencontre des journalistes et communicateurs avec la messe de ce 24e dimanche du temps ordinaire qui a présidé l'ordinaire du lieu, Mgr Paul Ouédraogo. Entre cet acte ultime et l'ouverture de la rencontre effectuée le jeudi 9 septembre dernier par le ministre de la Communication, des relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement, Dr Ousseni Tamboura, les journalistes et communicateurs ont eu le temps de réfléchir avec l'aide d'éminents panélistes sur des thèmes variés tels: médiatiser sans promouvoir l'insécurité, rôle et devoir des journalistes et des médias, action de solidarité en faveur des personnes déplacées internes, état des lieux et perspectives, des médias traditionnels aux médias sociaux, quelles attitudes en période de crise sécuritaire, traitement de l'information sur les attaques terroristes, état des lieux des relations armées-médias. Et pour joindre l'utile à l'agréable, plus de 60 journalistes et communicateurs ont fait une excursion au mausolée de Tifo Amoro dans le village historique de Numundara à 25 km de Bobo-Dioulasso. Venus du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Sénégal, journalistes et communicateurs ont fait un partage d'expériences et mis en place un bureau ouest-africain de l'Union catholique africaine de la presse. Paul Da Ouagadougou pour Radio Vatican.
Jour de rentrée des classes ce lundi 13 septembre 2021 en Côte d'Ivoire, une année scolaire placée sous le thème « Soyons tous des citoyens responsables pour une école de qualité ». Pour le père Jean-Luc Ntréman, secrétaire exécutif national de l'éducation catholique, c'est un thème qui appelle à la responsabilité de tous.
Ce sont des centaines de milliers d'écoliers et d'élèves qui ont repris le chemin de l'école après plusieurs semaines de vacances. Une année nouvelle qui commence avec de nouveaux enjeux, redonner à l'école ivoirienne ses lettres de noblesse. La ministre ivoirienne Maria Tukone de l'éducation nationale et de l'alphabétisation en a décidé de faire son cheval de bataille. L'année scolaire 2021-2022 qui s'ouvre aujourd'hui est placée sous le thème « Soyons tous des citoyens responsables pour une école de qualité ». Pour le père Jean-Luc Andréman, secrétaire exécutif national de l'éducation catholique, ce thème appelle à la responsabilité de tous.
Je pense qu'en nous plaçant tout cette égide-là dans le sens de la responsabilité, ici les uns les autres jouent pleinement ce rôle-là. Je pense que nous aurons une année que nous espérons, en tout cas meilleure.
Malgré la bonne foi du gouvernement ivoirien pour briser la chaîne de propagation du Covid-19, la maladie connaît depuis le mois d'août une nouvelle vague de contamination dans le pays et les acteurs du système éducatif ivoirien en sont bien conscients, inquiets, mais il faudra beaucoup plus miser sur les mesures barrières dans les écoles, penser également à la vaccination des enseignants, suggère le père Jean-Luc Ndrément.
On dit que l'évolution de la maladie nous inquiète tous, ce qui demande de notre part pour les enseignants et autres qui peuvent se faire vacciner, d'essayer d'être proche de ce centre de vaccination pour se protéger contre cette maladie.
La reprise de l'école est officielle, mais encore timide dans de nombreuses régions du pays. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Des hommes lourdement armés ont pris d'assaut une prison dans l'état de Kogi dans le centre du Nigeria dans la nuit de dimanche à lundi et ont libéré 240 détenus, a annoncé lundi un porte-parole de l'administration pénitentiaire. L'identité des assaillants restait inconnue, les centres et les nord du Nigeria étant terrorisés par des gangs criminels depuis des années. Le journaliste algérien et défenseur des droits humains Hassan Bourras a été placé dimanche en détention provisoire, notamment pour apologie du terrorisme, a-t-on appris auprès de l'un de ses avocats. Deux camionneurs marocains ont été tués au Mali à plusieurs centaines de kilomètres au nord de Bamako où ils acheminaient des marchandises par des assaillants non identifiés, a-t-on appris dimanche de sources diplomatiques marocaines et sécuritaires maliennes. En Tunisie, des citoyens en révolte contre la pollution marine. Il y a des coquillages morts et des poissons morts. On ne peut plus nager. Pour protester contre la pollution de la mer, des centaines de citoyens ont formé une impressionnante chaîne humaine sur 5 plages de la banlieue sud de Tunis.
Radio Vatican, Français Afrique, Donatien Niembo.
Deux femmes accusées de sorcellerie ont été tuées par des habitants dimanche dans un village du territoire de Fizi, dans l'est de la République démocratique du Congo, région où 3 autres personnes ont été tuées pour la même raison depuis le début de l'année, a-t-on appris lundi auprès des autorités locales. Par ailleurs, le président Félix Antoine Tshisekedi critique envers les sérums AstraZeneca au début de la campagne de vaccination contre le Covid-19 a reçu dimanche une première dose de vaccin et invité ses compatriotes à limiter, ont annoncé lundi ses services.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Poursuivons notre programme avec le magazine sur la santé avec Marie-Josée Mwando Boabolo.
La santé, un problème pour tous, un défi pour les sociétés et l'Église en Afrique.
Notre magazine sur la santé concerne l'engagement des pays africains à éradiquer toutes les formes de polio. Les gouvernements de la région africaine de l'Organisation mondiale de la santé se sont engagés à éliminer toutes les formes de poliomyélite qui subsistent et ont présenté un tableau de bord conçu pour suivre les progrès accomplis en vue de l'éradication du virus. Ces engagements ont été pris lors d'une réunion consacrée à la lutte contre la poliomyélite organisée dans le cadre de la 71e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, alors que la région africaine a été certifiée exempte de poliovirus sauvage il y a un an après 4 années consécutives sans nouveau cas, des flambées de poliovirus circulant dérivées d'une souche vaccinale continuent de se propager, notamment au sein des communautés où un nombre insuffisant d'enfants ont été vaccinés contre la poliomyélite. Le nombre de cas a augmenté l'année dernière, en partie à cause des perturbations des campagnes de vaccination contre la poliomyélite causée par la COVID-19. Depuis 2018, 23 pays de la région ont été touchés par des flambées et plus de la moitié de 1071 cas de ce poliovirus dans le monde ont été enregistrés en Afrique. En tant que président de l'Union africaine, je suis résolu à travailler de concert avec les autres pays dans le but de préserver les acquis obtenus grâce à nos efforts multiples dans la lutte contre la poliomyélite et d'éradiquer toutes les autres formes de cette maladie en Afrique. Une fois cette ambition réalisée, nous serons en mesure de dire que nous avons tenu notre promesse, à savoir assurer un avenir plus sûr et en meilleure santé pour tous nos enfants, a déclaré M. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Lors du comité régional, les pays ont discuté de la manière d'amorcer la mise en œuvre de la nouvelle stratégie d'éradication de la poliomyélite 2022-2026 lancée en juin pour stopper de toute urgence la propagation des poliovirus circulants dérivés d'une souche vaccinale. La stratégie décrit divers outils et tactiques visant à endiguer les épidémies, à savoir accélérer et améliorer la qualité de la riposte aux flambées épidémiques, notamment par les déploiements rapides de personnel de renfort du Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique à l'appui des pays dès que des flambées sont détectées. Intégrer davantage les campagnes de lutte contre la poliomyélite à la prestation de services de santé essentiels et à la vaccination systématique afin d'atteindre les enfants qui n'ont jamais été vaccinés, de contribuer à instaurer un climat de confiance au sein des communautés et d'améliorer le taux de couverture du vaccin antipoliomyélite. Accélérer le déploiement du nouveau vaccin antipoliomyélite oral de type 2, un nouvel outil qui pourrait endiguer plus durablement les flambées dues à des poliovirus circulants dérivés de souches vaccinales de type 2 qui sont les plus répandues. À ce jour, 6 pays d'Afrique ont déployé le vaccin. Près de 40 millions d'enfants ont été vaccinés et aucun problème d'innocuité n'a été relevé. La poliomyélite ignore et méprise les frontières. Sa présence dans n'importe quel coin ou recoin de notre région constitue une menace pour tous les pays. Le Togo s'engage à travailler avec nos partenaires régionaux et à agir de toute urgence pour mettre en œuvre des meilleures campagnes de lutte contre la polio et protéger les enfants dans toute l'Afrique. Avec une action collective, nous vaincrons toutes les formes de polio, a déclaré le professeur Mustapha Mijiawa, ministre de la Santé du Togo. Le tableau de bord lancé par le comité régional permettra de suivre les indicateurs de la mise en œuvre d'une riposte rapide et de qualité aux flambées de poliomyélite, de la préparation à l'introduction du nouveau vaccin lorsqu'il pourra être utilisé à plus grande échelle, du renforcement de la vaccination systématique pour combler les lacunes en matière de vaccination et de la transition des actifs consacrés à la poliomyélite vers les systèmes de santé nationaux selon une approche stratégique et progressive. Les ministres se sont engagés à examiner régulièrement les progrès réalisés sur chacun de ces indicateurs afin d'assurer une réussite collective dans la clôture en toute urgence du processus d'éradication de la poliomyélite et dans la garantie d'un avenir sans poliomyélite pour chaque enfant de la région.
Invité du jour.
Notre invité du jour est le père Miloš Lichner, vice-président de l'Université Nava en Slovaquie. Dans cet entretien, il donne ses impressions sur le voyage du Saint-Père en terre slovaque. On l'écoute.
Bon, actuellement, on se trouve aussi dans une crise pandémique qui a ses impacts aussi sur la visite. C'est-à-dire que pas tout le monde peut visiter le pape, mais il y a de plus en plus des gens qui sont heureux de cette visite. C'est comme une boule de neige qui augmente. Et de plus en plus, on voit les gens joyeux de cette visite.
Le pape François visite un peuple qui a connu les persécutions, le martyre, la privation de liberté religieuse. Quelles sont aujourd'hui encore les traces de ces blessures?
Bon, c'est-à-dire qu'il y a une génération de pères, de vieux prêtres qui a vécu cette persécution, s'en souvient très bien et qui sont très heureux de cette liberté. Parmi les membres de l'Église romaine catholique et aussi parmi les membres de l'Église gréco-catholique, dont il y a aussi pas mal de membres persécutés avec toute leur famille. Depuis le chute du communisme, le monde a bien évolué, aussi la Slovaquie a bien évolué. Et maintenant, il nous faut nous battre avec un certain nationalisme qui voudrait bien profiter de la religion, aussi surmonter un certain consumérisme. Il y a aussi une certaine chute de vocation. Et aussi partout dans le monde, on peut voir une augmentation d'antisémitisme séculier. Et nous sommes très engagés aussi en tant que Jésus dans Slovaquie, dans un dialogue judéo-chrétien. Nous sommes bien engagés dans ce combat contre chaque force d'antisémitisme et des mâles qui sont avec lui liés.
Les Slovaques ont-ils puisé dans leur histoire douloureuse et tourmentée une force qui fait d'eux des acteurs importants d'évangélisation sur tout le continent?
C'est vrai que nous devons maintenant évangéliser avec le pape et il nous faut se poser la question: quelle est l'image d'une bonne évangélisation? Une conversion intérieure de chacun de nous, c'est le plus important. Il nous faut commencer par nous-mêmes.
Le pape s'adressera aux catholiques du pays, mais la dimension écuménique est aussi au cœur de ce voyage, tout comme l'est le dialogue avec les communautés juives, mais aussi la population rome. Quel message cette terre, caractérisée par la diversité ethnique et religieuse, peut-elle transmettre ?
Que le dialogue est toujours possible et que la religion peut être un facteur très très important d'unification et de la paix.
Ce voyage a été placé sous la protection de Marie et Joseph. Ils occupent une place très importante dans la vie des Slovaques.
Oui, c'est ça. La piété mariale est une partie intégrale et essentielle de la foi catholique et chrétienne en Slovaquie. Et le pape a bien saisi, voilà, un fait qui nous lie ensemble parce que le pape, avant chaque visite, visite Santa Maria Maggiore, devant l'image de la Vierge Marie, il lui confie chaque visite. Et chez nous, ce message est très très bien reçu.
Quels encouragements, quel appel attendez-vous de la part du pape François?
C'est un encouragement dans un dialogue interreligieux et écuménique. Aussi, il donne place à des périphéries, c'est-à-dire les gens qui sont sur les périphéries de la société. Mais vraiment, c'est, pour moi, personnellement, c'est plutôt une attente d'ouverture. Je serai devant lui et je vais écouter. Et ensuite, je vais me poser la question: qu'est-ce que cela va dire dans ma vie d'un prêtre? Est-ce qu'il y a des choses que je dois changer dans ma vie en écoutant ces discours? C'est plutôt ce comportement d'un cœur d'ouverture.
C'était le père jésuite Miloš Lipner, vice-président de l'Université de Narva en Slovaquie. Il était au micro d'Hélène Détombe.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Nous sommes à la fin de notre programme. Merci de l'avoir suivi en compagnie de Donatien Niembo. Au revoir.
Ma vie, c'est le Christ et son évangile. Je veux être à lui, être son